France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's in the house.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Un jour dans le monde, c'est le jour où les champignons dominent la Terre.
Fungi seem harmless enough. Many species know otherwise, because there are some fungi who seek not to kill, but to control.
Voilà, les champignons qui ne tuent pas forcément, mais qui contrôlent, quoi d'autre que The Last of Us pour démarrer cette conversation. Série à très très grand succès sur un monde post-apocalyptique, donc où les champignons contaminent les hommes. Il faut être très bien accroché. Bonsoir Audrey Dussutour.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Votre objet d'étude habituellement, c'est le comportement des fourmis et aussi des blobs d'ailleurs. Ces espèces de choses un peu bizarres, mais très sympas. Cette fois, vous êtes lancé dans les champignons. Le titre de votre livre est évocateur. Les champignons de l'apocalypse est publié chez Grasset dans la collection Terre et Science. C'est la raison pour laquelle on a eu envie de discuter avec vous. C'est parce que la semaine dernière est sortie une information qui est un peu passée sous les radars, comme on dit dans cette émission. Deux chercheurs chinois arrêtés par le FBI à leur entrée aux États-Unis avec un champignon toxique. Il s'appelle, là je relis sérieusement mes notes, le Fusarium graminearum. On y est. Il détruit les récoltes, il rend les humains malades aussi parfois. À regarder cette affaire et à vous lire, je me suis demandé si la course aux armements ne devrait pas plutôt être la course aux champignons.
Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'États qui ont pensé aux champignons comme arme biologique. Alors ce champignon...
Celui-là on le connaît, ouais.
Oui, Fusarium graminearum, c'est un champignon qui est dans le monde entier. Il est déjà aux États-Unis, donc ils n'essayaient pas d'introduire une nouvelle espèce.
Oui.
Mais il y a des souches différentes.
Ouais, ouais.
En fait, c'est un complexe de souches, ce champignon-là. Et selon la souche, il va produire des toxines qui sont plus ou moins importantes. Et la toxine, là, qui est en cause, c'est la vomitoxine, qui est vraiment problématique.
Qui porte bien son nom, visiblement.
Voilà. C'est nausée, anorexie, il peut y avoir des problèmes du système immunitaire. Il y a aussi des toxines liées aux problèmes de reproduction. Donc, ce champignon existait, mais c'est juste qu'il aurait fallu le déclarer. Il n'est pas du tout, en fait, sur la liste, j'ai regardé, des êtres vivants qui sont liés à l'agroterrorisme. Il est déjà présent aux États-Unis, mais il est de coutume, quand même, quand on part dans un autre pays, de déclarer si on a surtout des pathogènes.
Mais est-ce que ça veut dire que nous avons, quelque part, il y a partout dans les pays, au fond, dans les tuyaux, des champignons développés, qui sont des champignons, sinon des champignons tueurs, on va faire de la fiction, mais en tout cas, qui peuvent faire des dégâts considérables? Ça veut dire que cette possibilité existe ou alors je vois faire oui avec la tête, donc je vais même pas finir ma question. Ça existe.
Oui, ça a existé. Et puis les États-Unis, par exemple, pendant la guerre froide, ils n'ont pas hésité à développer des bombes qui contenaient des spores d'un champignon qui s'appelle Puccinia graminis, qui attaque le blé. C'est vraiment épidémique quand ça s'attaque un champ de blé. C'est vraiment. Et donc ils voulaient créer une famine en Russie et en Corée. Et donc ils ont créé ces bombes. Alors ils ont travaillé des années durant. Ils ont dépassé des millions pour faire ça. Et finalement, c'est le président Nixon qui a décidé, par une convention liée à une convention internationale en 1972, de dire bon, non, on arrête, on va encadrer tout ça. Et donc, ils ont tout détruit. Mais bien sûr, chaque pays a des laboratoires qui étudient ça et aussi la manière de contrecarrer ce type d'arme biologique. Alors, les champignons, c'est un avantage, entre guillemets, pour une arme biologique parce que c'est facilement, en fait, ça se disperse facilement, ça se conserve aussi. Alors, le problème, c'est aussi que comme les champignons voyagent avec les humains, on n'est pas à l'abri que ça nous revienne après.
Ah bah oui, là, à nouveau.
En effet, ping-pong. Quoi.
Voilà, à nouveau, on se dit qu'on est dans la fiction, mais en fait, pas du tout. De ce que vous nous dites, effectivement, pas du tout. Ce qu'on comprend en vous lisant, c'est que la prolifération d'un champignon pathogène, on peut aller la chercher, comme vous dites, effectivement, si vraiment on y tient et qu'on fait ce genre de recherche. Elle peut aussi découler directement de notre environnement ou pas. La thèse de The Last of Us, par exemple, c'était le réchauffement climatique. Est-ce que c'est une hypothèse, ça, qui existe et qui fait que nous pouvons, aujourd'hui, quelque part dans le monde, développer des champignons dont nous ne savons pas jusqu'à quel point ils sont dangereux, mais que le réchauffement climatique nous dit oui, ils le sont.
Il y a une espèce dont on parle en particulier actuellement qui est assez inquiétante, c'est une espèce de levure qu'on appelle Candida auris, qui est liée, qui est très proche de Candida albicans, que les gens connaissent parce qu'elle s'attaque souvent aux femmes en particulier, pour des mycoses, etc. Et c'est une levure qui s'attaque aux patients immunodéprimés, qui a un taux de mortalité qui atteint 60%, qui résiste aux antifongiques connus. qui restent sur des surfaces inertes, ce qui n'est pas la plupart du temps, donc on peut les attraper par contact. Elle peut vivre sur la peau pendant quelques semaines, donc ça peut être contagieux. Et ça, c'est une levure qui a émergé liée au réchauffement climatique. C'est un champignon qui s'est habitué à ce qui s'est adapté à des températures proches de celles de l'humain, parce que ce qui nous protège contre les champignons, habituellement, c'est notre température à 37 degrés. Ouais. Parce que les champignons sont mésophiles et préfèrent des températures entre 20 et 25 degrés. Et donc forcément, vu que leur environnement se réchauffe, eux, ils s'adaptent. Et comme ils sont opportunistes, l'humain est juste un hôte de plus possible.
Et vous le dites d'ailleurs, vous l'écrivez, effectivement, vous nous racontez la tolérance aux températures et les 37 degrés, mais vous dites aussi le réchauffement climatique pourrait rebattre les cartes. Des champignons aujourd'hui inoffensifs pourraient s'adapter progressivement à des températures plus élevées, élargissant le cercle des espèces capables de nous infecter. Une perspective évidemment qui donne froid dans le dos. D'autant que j'ai appris en vous lisant que on sait qu'il y en a beaucoup des champignons, qu'il y en a des millions, mais on en connaît un nombre quasiment infinitésimal en fait.
Oui, on connaît 150 000 espèces, mais on estime, et l'estimation basse, à 5 millions d'espèces existantes. Donc on ne pourra jamais les connaître tous en réalité. Et par exemple, Candida auris, c'est parce qu'il n'était pas connu en fait, qu'on s'était jamais intéressé à lui. On s'intéresse souvent à un champignon quand il devient problématique. Et donc oui, on n'est pas à l'abri d'avoir de nouvelles espèces qui posent problème. Et surtout récemment, il y a des études qui ont montré, par exemple, chez une espèce qui est pathogène chez les insectes, qu'on pouvait adapter un champignon à des hautes températures en 22 générations simplement.
Ah oui.
Métarhizium, ils ont réussi en fait à l'adapter à des températures 32 degrés en juste 22 générations.
Alors ça paraît beaucoup, 22 générations, mais finalement c'est pas tant que
chez ça. Chez champignons, c'est pas beaucoup, c'est pas très long.
Dans votre livre, vous vous êtes amusée, Audrey Dussuture, à commencer, pour nous parler de champignons, à jouer avec une dystopie qui est totalement terrifiante. Elle l'est d'autant qu'on est en 2026, donc vous n'avez pas été chercher très loin dans le temps. Une dystopie terrifiante où le monde a été contaminé par un champignon parasite. La description, effectivement, je pourrais la donner. Tiens, d'ailleurs, je vais la donner, vous allez voir. Vous avez vu, j'ai mis une marque dans le livre et à côté j'ai mis « description horrible ». Et à « description horrible », il y a « le jeune homme était nu, il avait des sortes de fibres blanches qui sortaient de sa bouche, de son nez, de ses oreilles, de ses yeux, de ses parties génitales, bref, de tous ses orifices, ses filaments semblaient tous reliés au sol, le maintenant immobile, prisonnier, à l'arrière de sa tête, en prolongement direct de sa colonne vertébrale, émergeait une tige sombre et épaisse de 2 à 3 mètres de long, surmontée d'un coussinet rose pâle, on a envie de dire berk. Le champignon s'appelle, dites-nous comment il s'appelle, parce que je n'arrive pas à le prononcer.
Je vais lui donner un nom qui s'appelle Ophiocordyceps humani, voilà. Puisque c'est un hommage à Ophiocordyceps unilateralis, qui est en fait les fourmis à la base.
Alors voilà, parce que c'est exactement là que j'allais vous emmener. C'est l'humain, on est d'accord, ça n'existe pas. Mais dans la nature, ce que vous nous décrivez là, ça existe. Vous nous décrivez des fourmis qu'on a retrouvées à 25 cm du sol.
Exactement.
Ça veut dire qu'ils l'ont pris, la tige.
La description que j'en fais dans le livre pour l'humain est exactement à quoi ça ressemble pour les fourmis. C'est-à-dire qu'elles sont accrochées. En fait, le champignon manipule d'abord la fourmi. Alors, c'est comme petit GPS. Il utilise la fourmi comme un taxi pour se déplacer. Finalement, il se reproduit. Donc il force la fourmi à monter sur des brindilles, à mordre la brindille. Et là, en fait, le champignon est connecté au système nerveux. Il fait que les mâchoires se bloquent, donc elle ne peut plus sortir. Et là, elle a des ifs qui sortent de son thorax pour l'attacher à la brindille. Et là vient cette tige énorme qui sort de la tête et qui va porter en fait le corps de fructification qui va pouvoir disperser les spores. Et que les spores vont tomber comme une pluie juste au-dessous et pour infecter toutes les fourmis qui passent dessous.
Et c'est ça la clé aussi, c'est ça qui nous fait peur et qui nous fait penser à un avenir, j'espère, extrêmement lointain. Les champignons, c'est pas simplement les champignons qu'on voit dans la forêt, ce sont des spores. Donc c'est petit, c'est invisible, et c'est partout, surtout là dans ce studio. J'imagine qu'il doit y avoir une petite quantité quand même.
Oui, on en respire au moins entre 10 et 50 à chaque inspiration.
ce qui est beaucoup. On parlait de The Last of Us tout à l'heure, il y a un film de 2021 qui s'appelle Spore et qui dit à peu près des choses comme ça. Je pense au dernier James Bond, par exemple, où il y avait des espèces de spores posées sur des plantes qu'on pouvait même, sur lesquelles on pouvait inscrire un ADN, si bien qu'il ne s'attaquait qu'à des personnes dont l'ADN correspondait. Bien sûr que tout ça, c'est de la fiction, mais quand on vous lit, Audrey Dussuture, on se demande parfois si on est très loin et si cette fascination en fait, qu'on a pour les champignons ne peut pas nous emmener sur ce terrain-là, finalement.
Ben, en réalité, on le voit peut-être pas chez notre espèce actuellement, mais on a juste à se tourner vers un autre mammifère. Il y a une catastrophe qui est en train de se dérouler maintenant aux États-Unis pour les chauves-souris. Mm-hmm. C'est quand même on n'est pas très éloigné. Ils ont perdu, suite à une épidémie d'un champignon qui s'appelle pseudo-gymnoascus destructans, c'est donc tous des noms barbares, ils ont perdu une chauve-souris sur 8. C'est 7 millions de chauves-souris qui ont été éradiquées en moins de 10 ans. Et ce champignon s'est propagé à travers tous les États-Unis. Et c'est un champignon qui a été amené, bien sûr, toujours, par un humain sous une chaussure.
Ouais, et vous citez les amphibiens, les grenouilles notamment, la disparition, pareil, d'un nombre absolument dingue de grenouilles. Vous parlez des abeilles également. On se souvient de cette période 2018 où il y a eu beaucoup d'abeilles, beaucoup de ruches, beaucoup d'abeilles qui sont mortes. Et on sait que l'une des origines, c'est bien un champignon. Donc ce que ça veut dire, c'est que le schéma apocalyptique, au fond, dans le champignon, c'est pas tant que nous, on se transforme, c'est que la biodiversité en soit intégralement transformée, et c'est finalement ça le futur apocalyptique, en fait.
Oui, tout à fait, et le vrai problème, c'est la mondialisation. On transbahute plein d'espèces d'un pays à l'autre sans vraiment se soucier. Par exemple, les aspergilloses invasives qui sont résistantes maintenant aux antifongiques, on voit que c'est lié finalement à des tulipes qui sont exportées partout à partir des Pays-Bas, qui utilisent en fait des antifongiques par kilotonne pour lutter contre un champignon, une moisissure, et finalement ça touche le champignon qui est juste à côté parce que en fait, dans le sol, ils sont pleins. Et ce champignon va développer des résistances et va nous infecter après. Et donc il arrive dans nos poumons, il est déjà résistant aux antifongiques. Et donc ça, c'est un vrai problème auquel il faudra réfléchir parce qu'on a peu de moyens de lutte contre les infections invasives fongiques parce que on est très proche des champignons au niveau phylogénétique.
Alors ça, c'est fou.
Et oui, on est des cousins.
Alors ça, c'est dingo. C'est la chose qui m'a sauté au visage en vous lisant. En gros, si on fait la catégorie des animaux et des humains, enfin, vous écrivez qu'on partage 50% de notre ADN au fond avec des champignons. Donc en fait, ils sont dans la catégorie plus humain que plante en quelque sorte.
En fait, ils sont. Oui, on est plus proche des champignons que les champignons sont proches des plantes. Ouais. Donc en fait, on était sur une lignée commune qui s'est séparée, qui a donné les animaux et les champignons. Et donc, ce qui va toucher en fait une cellule animale, une cellule fongique, une cellule de champignons, ça va aussi toucher une cellule animale parce qu'elles sont extrêmement proches. Et donc, on doit s'attacher aux toutes petites différences qui différencient ces cellules. Et c'est pour ça qu'on a actuellement trois grandes familles d'antifongiques.
Est-ce qu'on s'y intéresse plus aujourd'hui parce qu'on a pris conscience de tout ça? Est-ce qu'on a pris du retard? Et si on l'a pris, est-ce que c'est simplement parce que, je ne sais pas pourquoi on s'y est pas intéressé? Peut-être parce que c'est moche, un champignon, donc on ne sait pas très bien quoi en faire. Est-ce qu'on commence à s'y intéresser vraiment parce qu'il y a ce genre de crainte sur la biodiversité, en effet?
Alors, on s'y intéresse beaucoup plus avec les épidémies qui ont été, pour les batraciens, par exemple, et les chauves-souris, etc. Donc, ça, bien sûr, ça a marqué les esprits. Mais on voit que les financements, en fait, qui sont alloués à la lutte contre les champignons sont beaucoup plus petits que les financements qui sont...
Et c'est une erreur, il faudrait...
Oui, parce que finalement, la perte économique liée, par exemple, à la disparition des chauves-souris, elle est énorme, parce que les chauves-souris, ça mange des insectes, ça mange des ravageurs des cultures, et donc si ces ravageurs de cultures ne meurent pas, ils mangent nos cultures, etc. Et donc, il y a un effet boule de neige qui fait qu'on perd des milliards, mais finalement, on consacre que quelques millions à la lutte contre ces champignons, donc on va y perdre au final. Et c'est vrai que la mycologie, c'est pas... Alors moi, je suis pas un mycologiste, oui, mais après avoir discuté avec mes collègues, ils disent que c'est vraiment une discipline qui attire peu de monde. Et c'est peut-être aussi voilà, cette idée que les champignons, c'est des moisissures. Mais je pense qu'on devrait s'y intéresser.
Vous dites même qu'on est entré dans l'ère fongicène.
Oui, parce qu'en fait, ils sont partout.
Voilà. Au secours, ils sont partout. Alors quand même, on s'est un peu appesanti sur ce qui pouvait nous faire mal. Il y a aussi des médicaments qui peuvent être faits à base de champignons. On a compris les greffes grâce aux champignons. Il y a quand même de bonnes nouvelles, mais enfin, c'est pas
je
toujours rassurant.
Les champignons ont sauvé plus d'humains qu'ils en ont tué.
Eh bien, écoute, espérons que ça continue comme ça. Audrey Dussutour, c'est passionnant en tout cas votre livre. Ça s'appelle Les champignons de l'apocalypse, publié chez Grasset dans la collection Terre et Sciences, qui est dirigée par l'ami Mathieu Vidard. Merci beaucoup. Merci. La suite, ce soir, c'est le reportage d'un jour dans le monde. C'est au Kosovo que ça se passe. Havre de paix pour la communauté LGBT en ce mois des fiertés dans des Balkans qui trop souvent sont le théâtre de discrimination. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, il y a vous, Kevin Dufresne, sous les radars.
Au Paraguay, le président de la République se fait pirater son compte X.
Le monde à 18h50, c'est Frédéric Saïs. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Fabienne. En Argentine, l'une des principales figures de gauche, Cristina Kirchner, déclarée inéligible en justice. Alors qui pour s'opposer à l'ultralibéral président Javier Milei?
Et le cinéma en VO comme chaque mercredi, Corinne Pellissier. Salut Corinne.
Bonjour. Alors si vous avez aimé Trainspotting et la haine, je vous conseille de ne surtout pas louper Kneecap, consacré au phénomène hip-hop irlandais, groupe qui débarque la semaine prochaine au cinéma et bientôt en concert partout en France.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète continue. Il passe par la playlist de France Inter avec le retour de quelqu'un qu'on adore, enfin surtout moi d'ailleurs, Kurt Sarding. There She Goes sur France Inter et dans Un jour dans le monde. D'un jour dans le monde ce soir est au Kosovo et sa capitale Pristina. En ce mois de juin, le mois des fiertés, le drapeau arc-en-ciel est sorti, pas seulement dans les Balkans d'ailleurs, mais justement, un peu partout aussi, les personnes LGBT sont devenues la cible favorite des populistes d'extrême droite. Les Balkans n'échappent pas à cette règle, hélas. Discrimination, appel à la haine des religieux ou des leaders identitaires en Serbie, en Bosnie, en Bulgarie. Les événements de la communauté LGBT, comme la Pride d'ailleurs, sont généralement ont lieu dans un climat généralement plein de tensions, mais chez les voisins du Kosovo, la situation est bien plus apaisée, alors que son indépendance n'est toujours pas reconnue sur la scène internationale, alors qu'il a du mal à se trouver un gouvernement. En ce moment, le pays le plus jeune d'Europe entend afficher son ouverture d'esprit. Elle le montre dans sa capitale, Pristina, devenue une sorte de scène queer bien vivante, déterminée à déconstruire les stéréotypes. Et le reste, c'est Louis Seyé qui raconte.
Le Bubble, c'est le bar que je fréquente le plus. Surtout ces deux dernières années, depuis que j'ai fait mon coming out en tant que bisexuel. C'est une sorte de deuxième famille que j'ai trouvée ici.
De la musique électro, des jeunes gens qui rient en terrasse et qui dansent sur le dance floor. À première vue, rien ne différencie Bubble des autres bars du centre de Pristina. Pourtant, pour Hena Arapi et les autres personnes LGBT+ du Kosovo, ce pub est une vraie bulle de liberté, loin des discriminations du quotidien. Il a été ouvert il y a 3 ans par le militant trans Lend Mustafa, en plein préparatif.
Aujourd'hui, on célèbre le premier jour de la Pride Week à Pristina. C'est un jour très important pour nous tous, les personnes LGBTQ+ du Kosovo, parce que c'est la 9e semaine des fiertés qui a lieu dans notre pays. Et en tant que communauté, c'est un moment important pour nous, pour aller de l'avant et faire face à toutes ces attaques contre les droits humains qui ont lieu au niveau mondial.
Au Kosovo, Lend Mustafa est une icône de la scène queer. Il y a 10 ans, alors à peine âgé de 18 ans, il avait raconté à visage découvert sa transition de genre. Le documentaire a été vu des dizaines de milliers de fois. Depuis, la scène queer locale n'a cessé de s'affirmer et elle bouscule les mentalités patriarcales de ce pays à majorité musulmane, grand comme l'Île-de-France et indépendant depuis seulement 2008.
Ce n'est pas parce que notre pays est devenu un État tardivement que l'on doit obtenir nos droits plus tard que les autres. Nos revendications sont claires. On veut l'égalité des droits maintenant et on refuse de revenir en arrière sur quoi que ce soit.
Pas de retour en arrière, c'est le slogan de cette nouvelle semaine des fiertés kosovares. Les militants LGBT+ font entendre leur voix dans le débat public et elles sont entendues dans l'une des sociétés les plus jeunes d'Europe, 35 ans de moyenne d'âge. Drag show, concerts, soirées poésie, workshops, leurs activités réunissent de plus en plus de monde. Une évolution dont se réjouissent les militants historiques.
Je suis Dardan Oti, je suis le directeur de l'Institut Sekhmet qui défend les droits des personnes LGBT+.
À quelques pas du marché et des mosquées du vieux Pristina, Dardan a ouvert un lieu culturel dédié aux artistes queer.
En 2012, lors de la soirée de lancement d'un magazine sur le sexe et la vie quotidienne des personnes queer, le lieu a été attaqué par des personnes homophobes et les organisateurs ont été agressés. Mais aujourd'hui, 13 ans après, deux lieux queer sont ouvert tous les jours à Pristina. C'était impossible à imaginer en 2012.
Mariage pour tous, reconnaissance juridique de l'identité de genre pour les personnes trans, la lutte des militants LGBT+ kosovars est loin d'être terminée. Mais ils peuvent pour l'instant s'appuyer sur le soutien politique de leurs dirigeants. Le Premier ministre social-démocrate Albin Kurti a de nouveau participé au lancement de cette semaine des fiertés. Et en 9 ans, la Pride de Pristina a toujours été une fête, bien loin des tensions alimentées par des religieux ou des partis d'extrême droite en Bosnie, Bulgarie ou en Serbie voisine. Marigona Chabiou est la directrice de l'initiative des jeunes pour les droits humains.
Année après année, on ne déplore aucun incident lors de la semaine des fiertés et lors de la parade. C'est quelque chose dont on se réjouit et qui nous rend fiers, surtout si l'on compare avec nos voisins. Pristina a la parade la plus festive, la plus belle, sans incident. C'est différent de la situation en Serbie et dans d'autres pays de la région.
Avec son ouverture d'esprit et sa tolérance, Pristina s'impose de plus en plus comme une ville référence pour les communautés queer au-delà des frontières du Kosovo.
Louis Seyé pour le reportage. Merci beaucoup Louis. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Et c'est d'abord au Kenya que nous allons, Kevin, où avaient lieu des manifestations tendues hier.
Oui, après la mort en prison à Nairobi d'Albert Ojwang, 31 ans, arrêté pour avoir publié sur les réseaux sociaux des messages accusant un haut gradé de la police kenyane de corruption. Dans un communiqué dimanche, la police a affirmé qu'il s'était suicidé après s'être tapé lui-même la tête contre les murs de sa cellule. Sauf que, bien sûr, le rapport des 5 médecins légistes qui ont examiné le corps ne valide pas cette hypothèse. Il y avait des blessures sur tout son corps, explique l'un de ses médecins face à la presse, estimant que tout pointe vers une agression. De plus, ce drame intervient pile un an après le mouvement de contestation contre le pouvoir du président Ruto, accusé de corruption et d'essayer de faire taire toutes les voix dissonantes au Kenya. Des manifestations durement réprimées, hein, au moins 60 morts et des dizaines de jeunes toujours portés disparus. Les opposants accusent la police de les avoir enlevé. William Ruto parle à propos de la mort d'Albert Ojwang d'une mort déchirante et inacceptable, d'un tragique incident commis par la police, dit-il. 5 agents ont été suspendus.
Et nous voici au Paraguay qui a changé de monnaie.
C'est en tout cas ce qu'a annoncé lundi un message sur le compte X officiel du président Santiago Peña. Le Bitcoin va devenir une monnaie légale du Paraguay aux côtés du Guarani, la monnaie actuelle. On imagine l'engouement que ça a pu créer chez les investisseurs en crypto-monnaie. Sauf qu'évidemment, il s'agissait d'un piratage accompagné d'un faux discours du président. Le message a vite été supprimé et c'est Santiago Peña lui-même qui a annoncé s'être fait pirater son compte, remerciant l'équipe de cybersécurité de l'État pour sa réponse rapide. Le ministre des Technologies de l'Information a assuré que le compte à l'origine de la cyberattaque avait été identifié. Il y a quelques semaines déjà, plusieurs institutions publiques du pays ont été visées par des hackers. Le président paraguayen a en tout cas plutôt intérêt à changer son mot de passe régulièrement.
Allez, nous allons en Espagne avec un contrôle routier qui se termine de façon plutôt inhabituelle.
Oui, parce qu'il implique des abeilles. C'est le journal catalan Segre qui raconte cette histoire. Ça se passe vendredi sur une route nationale à Cervara. On est dans les terres, hein, une centaine de kilomètres de Barcelone. La police fait s'arrêter une camionnette au bord de la route. Le conducteur ne porte pas sa ceinture de sécurité. Il est agité. Les agents le soumettent à un premier test d'alcoolémie. 0,4 g d'alcool par litre de sang. Ils veulent alors avoir une une confirmation, lui en faire passer un second. Mais l'homme les menace, je vais vous tuer, leur lance-t-il. Il se dirige alors vers l'arrière de son véhicule et il s'avère que ce septuagénaire est apiculteur, vous la voyez venir. Il transportait des ruches et il a libéré ses abeilles sur les policiers qui ont fui face aux insectes, se retranchant dans un restaurant à proximité. Avec du renfort, ils ont finalement interpellé le monsieur, piqué à plusieurs reprises. Les deux agents ont été soignés, nous dit-on, avec des injections de cortisone. L'apiculteur a été libéré sous caution après un tour au poste.
Mais dites-moi, après les champignons tueurs, les abeilles tueuses, ça se passe bien cette émission
oui,
ce
c'est
soir
pas mal, hein.
Kevin, merci beaucoup. Vous partez avec Julie London. I'm glad there is you. Vous êtes dans Un jour dans le monde.
In this world of ordinary people, extraordinary people, I'm glad there is you. In this world of overrated pleasures and underrated treasures, I'm glad there is you. To love, I'd love to live with you beside me. This world's so new, I'll muddle through with you to guide me. In this world where many, many play at love, but hardly any stay in love, I'm glad there is you.
There is you, Julie London sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h50, Frédéric Saïs.
How dare you?
The world has changed.
Fabienne Saint-Es. Le 18-20.
Frédéric, en Argentine, l'une des grandes figures de l'opposition, l'ancienne présidente Cristina Kirchner, vient d'être condamnée par la Cour suprême. Elle est désormais inéligible. Alors ce soir, vous vous demandez qui pour s'opposer à l'ultra-libéral président Javier Milei.
Alors si vous êtes engagé à gauche et que vous cherchez à l'étranger des motifs de réconfort, ne regardez surtout pas ce qui se passe en Argentine. Cristina Kirchner est effectivement la voix la plus puissante de l'opposition. 72 ans, ancienne présidente, figure historique de la gauche péroniste aux accents sociaux et populistes. La voici donc interdite de se présenter à une élection à vie. Jugement de la Cour suprême hier qui confirme une condamnation pour fraude au marché public. Cette décision de justice vient décapiter une gauche zombie, encore titubante, sonnée par sa défaite dans les urnes il y a un an et demi, sèchement battue par Javier Milei, qui, souvenez-vous, proposait d'attaquer à la tronçonneuse les dépenses publiques. Alors, décapitée, pas tout à fait, car Cristina Kirchner a pris prétexte de cette condamnation pour déclencher de vastes manifestations de soutien, personnage clivant, charismatique. Elle se dit victime d'une cabale exécutée par les juges. La peine judiciaire serait en fait une vengeance politique. Devant son domicile, une foule de partisans s'est rassemblée comme électrisée pour transformer cette peine en espoir.
Mais alors, même sans parler de cette condamnation, Frédéric, est-ce qu'on peut vraiment dire que cette ancienne présidente qui hante la vie politique depuis 30 ans incarne vraiment l'espoir de la gauche ?
Non, pas vraiment. Vous avez raison. D'ailleurs, c'est l'extrême lassitude l'attitude des Argentins envers elle, envers son parti, envers son clientélisme, qui ont mené la droite dure au pouvoir. Un salto al vacío, un saut dans le vide, comme l'ont résumé certains électeurs un peu déboussolés sur le mode « on ne sait pas ce que donnera Javier Milei, mais on ne pouvait plus continuer comme ça ». Désordre économique, inflation, incertitude. D'ailleurs, un an et demi après cette présidentielle, la gauche ne s'est pas remise en selle. Élection partielle il y a un mois, test électoral, c'est le candidat de Milei qui est arrivé en tête, comme me le faisait remarquer la chercheuse Juliette Dumont. Le président argentin, malgré ses provocations, malgré ses coupes budgétaires, reste assez populaire, 48% d'approbation dans les sondages.
Mais alors, qui sont les autres figures à gauche qui peuvent incarner le combat ?
Et c'est un combat urgent, élection de mi-mandat dans 4 mois. Alors, il y a bien quelques partis trotskistes, communistes, qui surnagent, mais pas de quoi faire trembler l'homme de la Casa Rosada, le siège de la présidence. Non, la relève pourrait s'incarner avec le gouverneur de Buenos Aires, Axel Kicillof, 53 ans, lui aussi est issu de la gauche péroniste, comme Kirchner, c'est même son ancien dauphin. Je dis ancien parce que tous les deux se sont brouillés, désormais concurrents pour prendre la tête de leur mouvement, Nom d'Oiseau et Cuba, une gauche qui s'entre-déchire pendant que la droite engrange des succès. C'est pas en France que ça arriverait, évidemment. Alors cela dit, l'opposition argentine n'est pas totalement amorphe, elle se fait entendre dans la rue, les mouvements sociaux traditionnellement puissants dans le pays ont repris de la vigueur, par exemple autour d'un hôpital pédiatrique à Buenos Aires, l'hôpital Garán, présenté en victime de l'austérité budgétaire, d'où la mobilisation populaire, de quoi peut-être redonner du souffle à une gauche qui s'époumonne dans le vide.
Frédéric Saïs, merci beaucoup. À demain. Le mercredi, c'est le cinéma en VO et c'est Corinne Pellissier.
Moteur. France Inter.
And the Oscar goes to...
Un jour dans le monde.
Tell me something about you. Something you've never told anyone else.
I'm a rapper.
Personne ou presque, Corinne, à part Cyril Sauvageau, n'avait entendu parler d'eux avant leur déclaration explosive au festival de Coachella, Fuck Israel, Free Palestine, comme ça au moins c'était bien clair. Et cette enquête aussi lancée en Grande-Bretagne par la police terroriste, on s'en était largement fait l'écho ici même. Aujourd'hui, plus besoin de présenter le phénomène irlandais Niqab et son hip-hop corrosif. Le groupe, dans quelques semaines, sera en France. Pour une tournée des festivals, on donnera 2-3 dates et s'offre aussi le luxe d'un biopic avant cela, signé d'un ancien journaliste fan de hip-hop. Il s'appelle Rich Pepiat, récemment passé à la réalisation.
Et après une première enquête fracassante sur le monde des médias en Angleterre, le voilà aux commandes du film le plus commenté du moment, récompensé déjà au BAFTA, d'en prier aussi du public au festival de Sundance. C'est ce qu'on appelle peut-être avoir du flair, car l'histoire a démarré pour lui bien avant les polémiques et les enquêtes judiciaires. Il y a 2 ans, lors d'un concert à Belfast, Rich Pepiat, fan de hip-hop, découvre par hasard un groupe dont il n'avait encore jamais entendu parler, mais qui va le clouer sur place. Alors je vous présente le groupe Rotule. Rotule pour donc Niqab en VO, okay. Un trio irrévérencieux qui mélange dans son rap ces deux langues, celle de l'oppresseur, celle du cœur, l'anglais, le gaélique pour défendre la réunification de l'Irlande. C'est sauvage, désespéré, complètement inédit. Le résultat à l'écran, 2 ans plus tard, va donner une fiction à mi-chemin, on va dire, entre la haine et Trainspotting. L'histoire est un peu romancée, mais les membres du groupe jouent leur propre rôle. Et tout ce que vous allez voir à l'écran de plus tordu, de plus frappadingue, eh bien, leur est vraiment arrivé. Beaucoup de bastons, beaucoup de drogue. Michael Fassbender au casting joue lui le rôle du père activiste d'un des membres. Tout est tourné vers l'identité gaélique défendue dans leurs chansons. Avant l'idée d'un biopic, c'est vraiment la langue irlandaise qui est au cœur du projet de Rich Pepiat, opportunément soutenu par une loi passée en décembre 2022 reconnaissant officiellement la langue gaélique en Ulster.
À l'origine, lorsque nous avons commencé à réaliser ce film, nous nous sommes concentrés sur la langue irlandaise, sur la façon dont le colonialisme l'avait presque anéanti, et sur sa capacité à se défendre grâce à des groupes comme Niqab. Nous avons réalisé qu'il y avait aussi une dimension plus universelle autour des langues autochtones dans le monde entier. Vous savez, le problème avec une langue, c'est qu'une fois morte, il n'y a plus aucun moyen de la récupérer. L'irlandais n'est pas une langue écrite comme le français ou l'anglais. C'est une langue orale qui se transmet de génération en génération, par la musique, par la poésie, par les récits. C'était très intéressant de voir ces jeunes ouvriers utiliser le hip-hop comme outil de transmission de la langue et de leur vécu. C'est ce que nous explorons dans le film. Finalement, qui sont les meilleurs ambassadeurs d'une langue ? Les représentants d'un mouvement politique qui cherche à la faire reconnaître ? Ou un groupe comme Niqab, même s'ils ne parlent que de la drogue, de la culture de la rue, de sexe et de violence dans leurs chansons ?
Taking drugs.
involved in street culture, talking about sex and violence.
Alors le film sort au cinéma la semaine prochaine, Corinne, dans un climat, donc on le disait, de bad buzz autour du groupe, avec des dates de tournée qui ont été annulées, une enquête judiciaire aux fesses aussi. Qu'est-ce qu'il en dit, le réalisateur ?
Alors c'est sûr qu'il aurait préféré éviter d'aborder la question, mais il ne botte pas en touche. Dans l'entretien qu'on a pu réaliser avec lui, il a tenu à rappeler l'importance du contexte historique, politique en Irlande du Nord, les combats dont ces jeunes rappeurs sont les héritiers, le choix du hip-hop aussi comme cri du cœur pour redonner une voix à ceux qui n'en ont pas.
It's not my place to speak of the rationale.
Ce n'est pas à moi de commenter leur action, je ne suis que le réalisateur du film, mais je dirais que les paroles qu'ils ont eues à Coachella étaient maladroites. Parce que je pense que ce ne sont pas des mauvais gars. Leur rap et leur façon d'aborder le sujet sont complètement en phase avec les origines du hip-hop. C'est d'ailleurs ce qui m'a attiré chez eux. Ils sont très opposés à l'homophobie dans leurs paroles. On n'entend jamais ça, ce n'est jamais sexiste. Ils ne parlent pas des femmes comme ça. Et puis, il faut bien comprendre qu'il y a un lien étroit en Irlande, il y a toujours eu un lien très fort, entre la cause palestinienne et la cause irlandaise. Dans l'ouest de Belfast, d'où ils viennent, on voit beaucoup de drapeaux palestiniens, autant que de drapeaux irlandais. Donc, cette lutte pour la reconnaissance, pour l'identité, pour sa propre terre, ils ont toujours eu ça en commun. Et ils ont été très bien acceptés au sein de la communauté hip-hop, dont l'objectif, je le rappelle, est de donner une voix aux communautés qui n'en ont pas et qui se sont opprimées.
Allez, Niqab au cinéma, c'est mercredi prochain, les Eurocaines le 6 juillet, Rock en scène le 24 août.
Voilà, ben voilà.
C'est dit, merci beaucoup Corinne Pellissier, à la semaine prochaine. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Chilly, juste après le téléphone sonne. Bonsoir Lionel Thompson.
Bonsoir.
Rédacteur en chef du 18-20, ce soir maintenant qu'on a les mesures du gouvernement pour tenter d'endiguer la violence extrême des ados, on les met sur la table.
Eh oui, faut-il des portiques à l'entrée de toutes les écoles ? Faut-il interdire les réseaux sociaux aux ados de moins de 15 ans ? Faut-il restreindre la vente des couteaux aux mineurs ? Faut-il plus de psychologues à l'école pour suivre les profils à risque ? Faut-il un peu de tout cela à la fois ? Toutes ces questions vous font réagir déjà. Jérôme, par exemple, propose que tout enfant exclu de son établissement, comme c'est le cas de l'adolescent qui a tué à Nogent, ne puisse le réintégrer sans un soutien psychologique. Et vous, quelles sont vos interrogations, vos témoignages, à vos WhatsApp, à vos téléphones ?
01 45 24 7000.